RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie et la Suisse développent l'enseignement professionnel. Le gouvernement doit réviser immédiatement la loi sur les stupéfiants. Selon le vice-président indonésien, les banques doivent améliorer le système de sécurité. La réalisation de l'ambassade d'Indonésie à Kiev pendant les 9 derniers mois. FTI a des preuves documentaires du Tempe comme patrimoine culturel. Jérémy nous présente maintenant le journal complet. Le gouvernement indonésien et la Suisse ont coopéré au développement de l'enseignement professionnel par le programme de compétences pour la compétitivité ou S4C qui vise à relier le processus d'enseignement au niveau de l'école polytechnique avec le secteur des entreprises. Le ministre indonésien de la Recherche, de la Technologie et de l'Enseignement supérieur, Muhammad Nasir, a déclaré mardi à Jakarta que la coopération se déroulait dans plusieurs écoles polytechniques, notamment dans le secteur de la métallurgie, les meubles et de l'alimentation. Le programme Metal offre le système double formation professionnelle réalisé par la Suisse. Et le ministre a noté que le programme était une percée pour soutenir le programme de revitalisation polytechnique. La revitalisation peut améliorer la compétence des étudiants professionnels. Il espère également que cette coopération permettra de répondre aux besoins de travailleurs qualifiés dans le secteur industriel et de réduire les écarts de compétences, a souligné M. Nasir. Cette coopération est nécessaire pour aider les diplômés des écoles polytechniques à devenir des experts dans le secteur industriel. Nasir espère que l'industrie pourra contribuer au processus d'apprentissage et à la disponibilité de professeurs dans les instituts polytechniques. L'ambassadeur suisse en Indonésie, Yvonne Baumann, a révélé que le programme était un effort de Suisse pour soutenir l'Indonésie dans l'amélioration de la qualité des étudiants afin de réduire le chômage et stimuler l'économie de l'Indonésie. Le gouvernement indonésien doit réviser immédiatement la loi sur les stupéfiants en ligne avec le développement et la sophistication de la criminalité mondiale liées aux stupéfiants. Sinon, le Parlement est prêt à prendre en charge la révision de la loi sur les stupéfiants. C'est ce qu'a été dit par le vice-président du Conseil législatif du Parlement, Firman Subagio, au forum législatif Révision urgente de la loi sur les stupéfiants, supervision et action de l'IDEAL avec M. Nasir Jamil, le membre de la Commission 3 au Senayan, Jakarta. Il a affirmé que la loi sur les stupéfiants et psychotropes doit être révisée maintenant. le gouvernement a déjà appelé à une urgence médicamenteuse indonésienne. Pour cela, il a insisté le gouvernement à envoyer immédiatement le manuscrit des modifications de la révision de la loi sur le stupéfiant. Concernant la révision de la loi, on souhaite que les policiers et les officiers de la BNN qui impliquent à la criminalité liée à la drogue puissent être sanctionnés. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a demandé aux banques indonésiennes d'améliorer le système de sécurité lié au crime de cambriolage de l'argent des clients à travers de guichets automatiques ou ATM. Cela a été dit par Yusuf Kalla aux journalistes au bureau du vice-président Jakarta mardi. Les faiblesses du système de sécurité possédé par des banques en Indonésie et la responsabilité de chaque entreprise, de sorte que l'opportunité pour les crimes bancaires ne se produit plus dans ce pays. Les crimes bancaires sous la forme de détournement des fonds des clients par la méthode de scamming ou lire la carte de ATM se produisent souvent et sont préjudiciables aux clients de la Banque Rakyat Indonesia ou BRI et la Banque Mandiri. PT BRI revendique que les fonds perdus à cause de crimes bancaires à Kediri dans l'est de Java sont inférieurs à 1 milliard rupiah. La police a déclaré que des crimes similaires ont lieu dans divers pays du monde, impliquant 64 banques dans le monde. Le chef unité 4 de la sous-direction des enquêtes criminelles, AKP Rovan Richard Mahenu, a mentionné que 64 banques, dont 13 sont les banques appartenant domestiques. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. L'ambassadeur d'Indonésie en Ukraine, Yudi Krisnandi, a livré des réalisations de l'ambassade d'Indonésie à Kiev en Ukraine au cours des 9 derniers mois, comme par exemple la construction du pavillon culturel indonésien et taman miniature indonésien à Kiev en Ukraine. Il a été dit par Yudi Krisnandi dans le compte officiel Instagram à Jakarta mercredi. Il a déclaré que la construction du pavillon de la culture et de taman miniature Indonésia a été planifiée depuis 10 ans. Maintenant, il peut être achevé au cours des 9 derniers mois sans fonds du budget de l'État ou APBN de l'ambassade d'Indonésie. L'ambassade ouvrira également le consul commercial à Kharkiv en Ukraine afin d'ouvrir un nouveau marché non traditionnel en Europe de l'Est pour les produits indonésiens. Actuellement, le volume du commerce indonésien-ukrainien a augmenté de 15%. Le nombre de touristes ukrainiens en Indonésie a également augmenté à 100%. Selon l'ambassadeur Yudi, il est en train de faire le processus d'achat de l'immeuble du bureau de l'ambassade d'Indonésie après avoir loué pendant 25 ans. Le Forum indonésien de la TMP ou FTI a des preuves que la TMP était un patrimoine culturel immatériel de l'humanité qui sera utilisé comme un document à soumettre à l'UNESCO. Et le président de FTI, Professeur Made Astawan, en marge de l'atelier international sur la TMP, tenu à la Faculté de la Technologie Agricole de l'Université Catholique de Widya Mandala à Surabaya, a affirmé mardi que l'une des preuves documentaires fortes est l'apparition des mots tempé en fibre de Centini qui indique que la tempé est connue depuis le 16e siècle. En plus des preuves documentaires, une autre condition nécessitée pour progresser vers l'UNESCO et la reconnaissance du gouvernement de l'Indonésie que le tempé est un patrimoine culturel national. Cette reconnaissance a été donnée en octobre 2017. Cet atelier était une forme de célébration de la reconnaissance du gouvernement de l'Indonésie. Les avantages de la reconnaissance de la tempé par l'UNESCO sont attendus comme dans le batik. Après que le batik a été fixé par l'UNESCO en tant que patrimoine culturel de 2009, tout le monde porte batik à la fois vieux et jeune. C'est le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Le résultat de l'élection présidentielle de la Russie ». La Commission électorale centrale de la Russie, le dimanche 18 mars, a rapporté que 67% des électeurs ont voté pour les élections en Russie. Basé sur les calculs préliminaires, plus de 75% ont choisi Vladimir Poutine. Bien que le calcul global soit toujours en cours, mais les observateurs ont pu s'assurer que l'ancien membre du KGB, les services secrets à l'époque de l'Union soviétique, reconduiront la Russie pour les trois prochaines années, battant sept autres candidats. La victoire de Poutine provoque des divergences de presque tous les dirigeants dans le monde. Comme l'a souligné Deutsche Welle, la réélection de Vladimir Poutine a provoqué des sentiments mitigés en Allemagne, y compris au plus haut niveau de pouvoir politique. Lors d'une conférence de presse du gouvernement le lundi 19 mars, le porte-parole du gouvernement allemand, Stefan Seibert, a déclaré que la chancelière allemande, Angela Merkel, faciliterait Poutine pour sa victoire. Le dirigeant chinois Xi Jinping, cité par Xinhua, a félicité pour la victoire de Poutine. Il a également déclaré que la Chine voulait coopérer avec la Russie et améliorer les relations entre les deux pays. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a déclaré que le Venezuela améliorait les relations bilatérales avec la Russie après la victoire électorale de Poutine, notamment dans le domaine de la politique internationale, afin de créer la paix mondiale. Cependant, le leader de l'opposition, Alexei Navalny, qui est interdit de prendre part à l'élection, avait auparavant demandé à ses partisans de boycotter le vote qu'il appelait faux. Il a affirmé avoir envoyé plus de 33 000 observateurs à travers le pays et a déclaré qu'il y avait eu des violations massives, ce qui n'est jamais arrivé auparavant. Mais la Commission électorale de la Russie rejette les allégations de fraude. Le monde espère que la victoire de Poutine peut apporter une contribution réelle à la paix mondiale, parce qu'après la fin de la guerre froide, l'hégémonie de puissance occidentale est très apparente. Presque tous les pays occidentaux participent au programme de la paix de l'ONU dans les zones de conflit comme Moyen-Orient et les pays asiatiques. C'est pourquoi la Russie était désireuse de jouer un rôle dans le règlement de divers conflits. En outre, la stabilité de la région devient le programme politique du président élu dans l'avenir et restaure sa gloire en tant que superpuissance. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Serviteur, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la mort de Nurtanio Pringgoadi Suryo, le pionnier de l'industrie de l'aviation de l'Indonésie, le 21 mars 1923. Nurtanio Pringgoadi Suryo est le pionnier de l'industrie de l'aviation en Indonésie. Avec Viveko Supono, Nurtanio fait le planeur Zogling NWG ou Nurtanio Viveko Planeur en 1947. Il a fait le premier avion tous les métal et combattants nommé Sikumbang, suivi par Kunang-Kunang, Blalang et Glatik et la préparation de la production du F-27. Nurtanio est mort dans un accident d'avion le 21 mars 1966 quand il pilotait un avion Aero 45 ou AREV qui a été modifié en donnant des réservoirs de carburant supplémentaires. En raison du haut dévouement après Nortanion est mort dans des vols d'essais à rêve, le nom est immortalisé dans l'industrie aéronautique Nortanion, maintenant PT Dirgantara Indonesia. L'autre information est la mort de Wira Hadi Kusuma, le 4e vice-président de la République d'Indonésie, le 21 mars 2003. Le général retraité Omar Wira Hadi Kusuma est le 4e vice-président de l'Indonésie qui a servi de 1983 à 1988. Il a rejoint l'armée de sécurité populaire. Après la révolution nationale indonésienne, Omar a servi dans l'armée de terre. En mars 1983, Omar a atteint le sommet de sa carrière. Suharto, qui était élu président, a choisi Omar comme son vice-président. La carrière comme vice-président a pris fin en mars 1988 quand il a été remplacé Sudarmono. Wira Hadi Kusuma est décédé le 21 mars 2003 à l'hôpital central de l'armée indonésienne Gatot Subroto en raison de problèmes cardiaques et pulmonaires. Nous finissons l'histoire du jour avec la Journée mondiale des forêts et célébrée pour la première fois le 21 mars 2013. La Journée mondiale des forêts a été célébrée le 21 mars 2013 après la résolution des Nations Unies le 28 novembre 2012. Elle est célébrée chaque année pour partager la vision et la mission de la forêt et de sa relation au changement climatique dans le monde entier ainsi que les stratégies qui doivent être faites. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel du titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord Mon Indonésie.
Indonesiaku, Mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec Mon Indonésie et pour le titre, l'industrie nationale des cosmétiques se développe de 20%. L'industrie nationale des cosmétiques a connu une croissance assez élevée jusqu'à plus de 20% l'année dernière. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartarto, dans sa déclaration écrite lundi. Selon lui, le ministère de l'Industrie a placé l'industrie cosmétique comme secteur excellent qui s'est reflété dans le plan directeur du développement de l'industrie nationale de l'année 2015-2035. Il a déclaré, l'industrie des cosmétiques dans le pays a augmenté de 153 entreprises en 2017, de sorte que maintenant le nombre atteint plus de 760 entreprises. De ce nombre total, 80% de l'industrie nationale des cosmétiques est en secteur de petites et moyennes industries et le reste est des industries à grande échelle. Des industries à moyenne et à grande échelle, certaines d'entre elles sont capables d'exporter leurs produits à l'étranger, tels que l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient. En 2017, la valeur de l'exportation des produits cosmétiques nationaux a atteint 516,99 millions de dollars américains, en hausse par rapport à l'année 2016 de 470,30 millions de dollars américains. Le ministre Airlangga a expliqué, l'Indonésie était l'un des grands marchés de la cosmétique, donc cette entreprise sera prospective et promoteuse pour les producteurs qui veulent le développer dans le pays. Le potentiel de ce marché intérieur est entre autres l'augmentation de la population des jeunes. En outre, en ligne avec le développement de l'époque, l'industrie cosmétique a également commencé à innover sur les produits cosmétiques pour les hommes et les enfants. Le ministre espère, avec une bonne image de marque, les produits cosmétiques nationaux peuvent atteindre le succès comme les produits cosmétiques de Corée du Sud. Chers auditeurs, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
Le gouvernement indonésien et la Suisse ont coopéré au développement de l'enseignement professionnel par le programme de compétences pour la compétitivité, ou S4C, qui vise à relier le processus d'enseignement au niveau de l'école polytechnique avec le secteur des entreprises. Le ministre indonésien de la Recherche, de la Technologie et de l'Enseignement supérieur, Mohamad Nasir, a déclaré mardi à Jakarta que la coopération se déroulait dans plusieurs écoles polytechniques, notamment dans le secteur de la métallurgie, les meubles et de l'alimentation. Le programme Metran offre le système double formation professionnelle réalisé par la Suisse. Et le ministre a noté que le programme était une percée pour soutenir le programme de revitalisation polytechnique. La revitalisation peut améliorer la compétence des étudiants professionnels. Il espère également que cette coopération permettra de répondre aux besoins de travailleurs qualifiés dans le secteur industriel et de réduire les écarts de compétences, a souligné M. Nasir. Cette coopération est nécessaire pour aider les diplômés des écoles polytechniques à devenir des experts dans le secteur industriel. Nasir espère que l'industrie pourra contribuer au processus d'apprentissage et à la disponibilité de professeurs dans les instituts polytechniques. L'ambassadrice suisse en Indonésie, Yvonne Bowman, a révélé que le programme était un effort de Suisse pour soutenir l'Indonésie dans l'amélioration de la qualité des étudiants afin de réduire le chômage et stimuler l'économie de l'Indonésie. Le gouvernement indonésien doit réviser immédiatement la loi sur les stupéfiants en ligne avec le développement et la sophistication de la criminalité mondiale liée aux stupéfiants. Sinon, le Parlement est prêt à prendre en charge la révision de la loi sur les stupéfiants. C'est ce qu'a été dit par le vice-président du Conseil législatif du Parlement, Firman Subagio, au forum législatif Révision urgente de la loi sur les stupéfiants, supervision et action de l'IDEAL avec M. Nasir Jamil, le membre de la Commission 3 au Senayan, Jakarta. Il a affirmé que la loi sur les stupéfiants et psychotropes doit être révisée maintenant. Le gouvernement a déjà appelé à une urgence médicamenteuse indonésienne. Pour cela, il a insisté le gouvernement à envoyer immédiatement le manuscrit des modifications de la révision de la loi sur le stupéfiant. Concernant la révision de la loi, on souhaite que les policiers et les officiers de la BNN qui impliquent à la criminalité liée à la drogue puissent être sanctionnés. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a demandé aux banques indonésiennes d'améliorer le système de sécurité lié au crime de cambriolage de l'argent des clients à travers de guichets automatiques ou ATM. Cela a été dit par Yusuf Kalla aux journalistes au bureau du vice-président Jakarta mardi. Les faiblesses du système de sécurité possédé par des banques en Indonésie et la responsabilité de chaque entreprise de sorte que l'opportunité pour les crimes bancaires ne se produit plus dans ce pays. Les crimes bancaires sous la forme de détournement des fonds des clients par la méthode de scamming ou lire la carte de ATM se produisent souvent et sont préjudiciables aux clients de la Banque Rakyat Indonesia ou BRI et la Banque Mandiri. PT BRI revendique que les fonds perdus à cause de crimes bancaires à Kediri dans l'est de Java sont inférieurs à 1 milliard rupiah. La police a déclaré que des crimes similaires ont lieu dans divers pays du monde, impliquant 64 banques dans le monde. Le chef unité 4 de la sous-direction des enquêtes criminelles, AKP Rovan Richard Mahenu, a mentionné que 64 banques, dont 13 sont les banques appartenant domestiques. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. L'ambassadeur d'Indonésie en Ukraine, Yudi Krisnandi, a livré des réalisations de l'ambassade d'Indonésie à Kiev en Ukraine au cours des 9 derniers mois, comme par exemple la construction du pavillon culturel indonésien et Taman Miniature Indonésien à Kiev, en Ukraine. Il a été dit par Yudi Krishnandi dans le compte officiel Instagram à Jakarta mercredi. Il a déclaré que la construction du pavillon de la culture et de Taman Miniature Indonésia a été planifiée depuis 10 ans. Maintenant, il peut être achevé au cours des 9 derniers mois sans fonds du budget de l'État ou APBN de l'ambassade d'Indonésie. L'ambassade ouvrira également le consul commercial à Kharkiv en Ukraine afin d'ouvrir un nouveau marché non traditionnel en Europe de l'Est pour les produits indonésiens. Actuellement, le volume de commerce indonésien-ukrainien a augmenté de 15%. Le nombre de touristes ukrainiens en Indonésie a également augmenté à 100%. Selon l'ambassadeur Yudi, il est en train de faire le processus d'achat de l'immeuble du bureau de l'ambassade d'Indonésie après avoir loué pendant 25 ans. Le Forum indonésien de la TMP ou FTI a des preuves que la TMP est un patrimoine culturel immatériel de l'humanité qui sera utilisé comme un document à soumettre à l'UNESCO. Et le président de FTI, professeur Made Astawan, en marge de l'atelier international sur la TMP, tenu à la Faculté de la Technologie Agricole de l'Université catholique de Widya Mandala à Surabaya, a affirmé mardi que l'une des preuves documentaires fortes est l'apparition des mots tempé en fibre de Chantini qui indique que la tempé est connue depuis le 16e siècle. En plus des preuves documentaires, une autre condition nécessitée pour progresser vers l'UNESCO est la reconnaissance du gouvernement de l'Indonésie que la tempé est un patrimoine culturel national. Cette reconnaissance a été donnée en octobre 2017. Cet atelier était une forme de célébration de la reconnaissance du gouvernement de l'Indonésie. Les avantages de la reconnaissance de la tempé par l'UNESCO sont attendus comme dans le batik. Après que le batik a été fixé par l'UNESCO en tant que patrimoine culturel de 2009, tout le monde porte batik à la fois vieux et jeune. C'est le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de la Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le magazine culturel. Pesona Indonesia.
Bonsoir, serviteurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions en Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter la danse de Bidu Hodi Hakdaur de la province de Nusa Tenggara Est. La province de Nusa Tenggara Est ou NTT a une culture différente de celle des autres régions d'Indonésie. Il peut être vu de beaucoup de danses traditionnelles. Les danses de cette province sont généralement pleines de significations. L'une d'elles est la danse de Bidu Hodi Hakdaur. La danse traditionnelle à l'est de Nusa Tenggara ne connaît pas la danse unique ou la danse qui n'est jouée que par une seule personne, par exception la danse Bidu Hodi Hakdaur. Cette danse est effectuée par plus de deux personnes. La danse Bidou Hodihak Daour est accompagnée par une musique de combinaison de gendang, gong, tambour et flûte à bec ou genre de flûte. Même la danse est souvent entrecoupée de la chanson traditionnelle des gens de Belou, le Romalérine, qui est accompagnée d'un grand cri. La danse Bidou Hodihak Daour est développée de la danse Likouraï de la tribu Belou, Nusa Tenggara Est. Cette danse est dansée par un certain nombre d'hommes et de femmes. Dans une danse dynamique, les danseurs et les danseuses portent des vêtements de tissage ikat de la tribu Belou, ainsi que des accessoires tels que le taïs au sac traditionnel et le klewang au lame traditionnel. Les danseurs portent des accessoires pour montrer la richesse de la culture ethnique de Nusa Tenggara Est, qui est exotique. La danse Bidou Hodihak Daour est habituellement exécutée pour accueillir en mode honorable une fête de mariage, un rituel traditionnel et un divertissement. La performance de la danse Bidou Hodihak Daour est commencée avec des danseurs qui bougent leurs jambes énergiquement et vigoureusement en faisant sonner guiring-guiring ou bracelet de cheville, en suivant le rythme de gendang. Puis un certain nombre de danseuses viennent en balançant leur corps et en battant gendang ou bibiliku ou tambour avec l'excitation et la joie. Ensuite, il y a une chorégraphie en paire et en groupe formant un cercle. La danse Bidou Hodihak Daour est héritée de génération en génération. Dans le passé, cette danse traditionnelle est une danse pour accueillir l'arrivée du commandant de la guerre qui a réussi à conquérir les opposants. Cette danse représente une rangée d'hommes courageux qui ont utilisé klewang et vaincu l'ennemi, tandis qu'une rangée de femmes a battu joyeusement gendang pour accueillir l'arrivée des hommes et pour célébrer la victoire. D'ailleurs, la danse a aussi un autre sens, à savoir la convivialité, la joie et la coopération mutuelle. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La danse de Bidou Hodihak Daour de la province de Nusa Tenggara Est ». Demain, nous nous retrouvons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Apprendre l'Indonésien. Une rubrique qui vous introduit le vocabulaire indonésien et qui vous guide pour parler en bahasa Indonesia. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence de développement et de renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est dit restaurant. Je répète, dit restaurant ou en français au restaurant. Allons-y et restez avec nous à www.voynews.id. Écoutez maintenant une conversation entre A, le serveur de restaurant, et Tony B.
Selamat sore, Pak. Mau pesan apa?
Makanan apa yang paling enak di sini?
Ayam bakar mungkin?
Apakah ada yang lain?
Bapak bisa coba sate.
Oke, saya pesan sate.
Cherami voici des phrases et des vocabulaire. Enak. Enak. En français, c'est délicieux. Paling enak. Paling enak. En français, le plus délicieux. Makanan apa yang paling enak di sini? Makanan apa yang paling enak di sini? En français, quelle est la nourriture la plus délicieuse ici? Apakah ada yang lain? Apakah ada yang lain? En français, est-ce qu'il y a les autres nourritures? Saya pesan sate. Saya pesan sate. En français, j'ai commandé du sate. Pour demander de la nourriture la plus délicieuse dans un restaurant, dites makanan apa yang paling enak di sini? Et pour demander de la nourriture la plus célèbre, on doit dire makanan apa yang paling terkenal di sini? Comme par exemple, restoran apa yang paling murah di sini? Restoran apa yang paling murah di sini? En français, quel est le restaurant le moins cher ici? Donc, utilisez le mot paling pour dire une sauce la plus ou la meilleure des autres sauces. Comme par exemple, paling murah, paling murah. En français, le moins cher, paling tinggi, paling tinggi. En français, le plus haut, paling enak, paling enak. En français, le plus délicieux et paling bagus, paling bagus. En français, le meilleur. Nous répétons maintenant cette conversation.
Selamat sore, Pak. Mau pesan apa?
Makanan apa yang paling enak di sini?
Ayam bakar mungkin?
Apakah ada yang lain?
Bapak bisa coba sate.
Oke, saya pesan sate.
Jeremy, l'exercice de parler en bahasa Indonesia ke Nubu Furni, c'est mentionner votre nom, votre pays et votre adresse. S'il vous plaît, répondez aux questions demandées en donnant d'abord une salutation et envoyez votre enregistrement vocal à notre adresse email à voy@voynews.id. Je répète, email à voy@voynews.id. Bon, chers amis, voilà la rubrique Mari berbahasa Indonesia ou Parler en bahasa Indonesia. J'espère que c'est utile pour vous et au revoir.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonjour à tous les auditeurs de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Merci d'être fidèles à notre antenne. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des programmes musicaux. Et cette fois, on va écouter un groupe de musique de Massif. Écoutez maintenant la première chanson intitulée « Cet amour me tue » ou en indonésien « Cinta ini membunuhku ». Bonne écoute.
Kau
Voilà la chanson intitulée Cinta ini membunuhku ou cet amour me tue, chantée par The Massif. Ce groupe a été formé à Jakarta le 3 mars 2003. Les membres du groupe sont Rian comme chanteur, Kiki guitariste, Rama guitariste, Ray bassiste et Wai comme batteur. Le nom de Massif est tiré d'un mot en anglais, c'est Massif, ce qui signifie très grand. Cependant, pour le personnel de Massif, le mot Massif est interprété comme un espoir de pouvoir créer aussi bien que possible sur la scène musicale indonésienne. Bien que ce groupe ait été formé en 2003, son nom s'est envolé en 2007. Ils ont gagné la célébrité grâce à la victoire dans un concours de musique. Même jusqu'à maintenant, ce groupe est aligné avec les meilleurs groupes d'Indonésie. Chers amis, écoutez maintenant d'autres chansons de groupe de musique de Massif intitulée Part Mon Amour. Bonne écoute.
Bye.
Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie à Jakarta dans le programme musical. Et cette fois, nous présentons un groupe de musique de Massif. Et c'était une chanson intitulée Pergila Kasih ou Part Mon Amour, chantée par The Massif. Jusqu'à présent, ce groupe de musique a déjà produit 8 albums. Ce sont Menuju Nirvana ou Au Nirvana en 2006, Le Changement 2008, l'édition spéciale de mini-album en 2009, Le Voyage 2010, La Préparation en 2012, La Vie Plus Belle en 2014, The Massif avec Rêve 2016 et The Massif en 2016. La plupart des œuvres de The Massif sont sur le thème de l'amour, mais il y a aussi une chanson qui contient de la motivation de vie telle que N'abandonne pas, et presque toutes les chansons reçoivent une réponse positive de la part des amateurs de musique indonésienne. Le renommé de cette chanson de groupe n'est plus une surprise parce qu'il y a beaucoup de musiciens indonésiens qui demandent souvent à Rian, c'est le vocaliste de The Massif, de leur faire des chansons. Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter les deux dernières chansons intitulées Mélodie et Part Mon Amour. Tous les deux sont chantés par The Massif. Merci à tous et au revoir.
Selalu mengalun indah, engkau bagai darah yang mengalir di nadi ini, di dalam hatiku tiada yang lain selain yang aku cinta. Saat ku kuat terjatuh, ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkan. Selalu membuatmu bahagia, namun ku kan mencoba untuk selalu setia padamu. Di dalam hatiku tiada yang ku ingin.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voines.id/french.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.